Ildo Tamani, voici les informations en français.
On est aujourd'hui le premier jour du mois de novembre 2022. Il est 18h dans ce studio, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est la période des récoltes au Mali, mais à Kita, Bankassé, Massina, les insectes et oiseaux granivores continuent de poser problème. Erreur médicale dans les structures de santé, la réaction de l'Ordre des médecins du Mali à suivre dans ce journal. Viol sur les jeunes filles, des sociologues demandent aux victimes de briser le silence pour mettre fin à la pratique. Le dossier de cette semaine s'intéresse au sujet. À la présentation, Adama Amadou Haïdara nous dirait assure la mise en ordre. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. En cette période de l'année, certains paysans ont déjà perdu espoir quant à leur prévision de récolte. De Kita à Bankass, en passant par Massina, oiseaux granivores et insectes causent des inquiétudes et de la désolation chez les producteurs agricoles. Les responsables du service d'agriculture et les paysans affirment être à pied d'œuvre pour limiter les dégâts. Plus de détails avec Mamadou Samasekou, avec la collaboration de certains correspondants.
Madi Keita est un paysan de Bendougouba, une commune située à 12 km de la ville de Kita. Il alerte sur la présence des oiseaux ravageurs dans le cercle de Kita.
Les granivores sont bel et bien dans plusieurs localités de Kita. Avec 60 à 70% des pertes, les champs de coton ont subi plus de dégâts que le cultif sèche. S'en suit le maïs, le sorgho qui subit peu de pertes est aussi menacé présentement.
Sur place, la chambre locale d'agriculture confirme les dégâts causés par des espèces d'insectes qui restent encore à déterminer. Elle précise que les services techniques s'activent pour en savoir plus et prendre des mesures idoines. Zoumana Tonkara, vice-président de la Chambre locale d'agriculture de Kita.
Présentement, tout a été ravagé. Le coton, le gombo et maintenant ça commence à guetter la culture de sésame. Donc nous demandons à nos responsables qui, j'en suis sûr, sont en train de prendre des dispositions pour nous aider. Les objectifs qu'on a fixés pour le coton cette année ne seront pas atteints.
À Massina, où les oiseaux et autres prédateurs sont visibles dans les forêts, le service de la protection des végétaux affirme que des dispositions sont déjà prises. Diakar Diassougouba, chef de service de protection des végétaux.
S'il y a les attaques des oiseaux granivores, on a les brigades pratiquement dans toutes les localités, les villages. Ensuite, on a la collaboration entre l'OPV et l'Office du Niger.
Toujours dans le centre du pays, à Bankass, des sources locales rapportent que de nombreux champs de mil ont été ravagés par des oiseaux granivores.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Depuis quelques jours, des images d'un individu qui piétine le Saint-Coran en insultant Dieu et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, circulent sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a créé une grande indignation au sein de la communauté musulmane. Le ministre des Affaires religieuses et du culte ainsi que le procureur général ont fermement condamné et mis en garde l'auteur de ces faits qu'il qualifie d'inadmissibles et abominables. Fatia Tara nous donne les détails.
Dans un communiqué, les ministres des Affaires religieuses et du culte condamnent les propos de cet individu. Les ministres rassurent la communauté musulmane ainsi que toutes les autres confessions religieuses reconnues au Mali que son département s'engage dans la gestion des actes de ce genre. Il invite par ailleurs les populations à plus de retenue. Il exhorte les leaders religieux à appeler au calme, à la sérénité et à la patience afin que les autorités puissent régler les problèmes dans un climat apaisé. La justice annonce l'ouverture d'une enquête. Le procureur général exhorte le concours des populations afin d'identifier, localiser et interpeller l'auteur de ces faits punis par la loi. Il invite également les populations à la retenue.
26 nouveaux membres au Conseil national de la transition, qu'est-ce que cela va changer? Le thème était au cœur du grand dialogue d'hier de Studio Tamani. Certains débatteurs pensent que cet élargissement n'apporte rien de nouveau au travail du CNT à 17 mois de la fin de la transition. Le résumé avec Fatoumata Koudjo.
Un des invités du débat, Zoumana Diabenta, membre du M5-RFP, a dénoncé le manque de désignation des nouveaux membres du CNT. Il trouve aussi le CNT illégal et illégitime.
Le M5, nous avons amené 6 CV. Malheureusement, les personnes qui ont été choisies ne figurent même pas sur ces 6 personnes. Donc ça, c'est très grave. Des entités choisies par une commission, c'est antidémocratique. Moi, je suis contre ça et je me battrai pour ça.
Toutefois, Mme Samake Fatoumata Traoré, membre du parti Alliance démocratique du peuple malien, estime que cette liste additive peut promouvoir le dialogue social.
Cet élargissement pourrait apaiser un peu les ardeurs par rapport au niveau de représentativité de toutes les forces vives de la nation. C'est dans ce sens-là que nous avons accompagné la transition.
Par contre, les débatteurs soulignent que les changements tant prônés par les Maliens peinent à se réaliser avec la transition.
Un des titres de ce journal au Mali, plusieurs personnes se plaignent des erreurs médicales dans les structures sanitaires. Ils estiment que beaucoup de leurs parents sont décédés suite à ces duplicités. Cependant, l'Ordre des médecins du Mali affirme ne pas avoir beaucoup de plaintes sur ce sujet. Les détails avec Aboubakrine Ag Mohamed Niatara.
Il est décédé suite à une injection reçue dans une clinique de la place. Témoigne un parent qui a requis l'anonymat. Il estime que son oncle a été victime d'une erreur médicale.
La clinique où il devait être opéré a programmé son opération. On l'a donné un traitement à suivre 3 jours juste avant l'opération. Le vieux a fait l'injection seulement, il s'est évanoui. Le vieux est décédé. Et moi j'ai demandé au docteur qu'est-ce qui s'est passé. Le docteur m'a dit qu'on a fait l'injection seulement, il a perdu conscience.
Pour l'ordre des médecins, les plaintes sur la question ne sont pas fréquentes. Cependant, une procédure est prévue en cas de convocation par les parents du patient. Docteur Bourey Makeli, secrétaire général de l'Ordre des médecins du Mali.
Si le médecin est fautif, en ce moment, il y a une procédure disciplinaire qui est ouverte sur la question, qui va enquêter suffisamment et qui va proposer les sanctions maintenant au Conseil national. Et ces sanctions-là seront prises maintenant à l'encontre des médecins.
Toutefois, il rappelle que les cliniques non formelles et les médecins non inscrits à l'Ordre ne relèvent pas d'eux et ne doivent même pas exercer.
La deuxième phase du programme L'école à la radio a été lancée hier à Bamako. Ce programme est une initiative de Studio Tamani en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et UNICEF. Il vise la continuité des apprentissages des enfants au Mali. Le viol sur les jeunes filles devient de plus en plus fréquent au Mali. Cette violence basée sur le genre demeure toujours un sujet tabou. La plupart des victimes préfèrent taire leur malheur. Pour des sociologues, ce problème est un défi pour les communautés qui doivent briser une culture du silence qui souvent maintient l'oppression. Pourtant, le viol et l'acte de pédophilie sont condamnés par la législation malienne. Moussa Mali Sissoko est allé à la rencontre d'une victime.
Chata, c'est le surnom que nous avons donné à cette jeune fille. Elle a 35 ans aujourd'hui. Très jeune à l'époque, elle affirme avoir été violée par un proche parent de la famille. En sanglots, Chata raconte son calvaire. La victime du viol dit avoir peur de dénoncer son bourreau.
Il y avait un cousin éloigné du quartier qui a abusé de moi. Je me considérais comme une adulte. Ma famille, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? À me dire, tu veux vraiment en finir avec notre famille. Si j'étais venu parler de ça en famille, ils allaient trouver un terrain d'entente.
Le sociologue Brema Eli Diko déplore que le viol soit considéré comme un déshonneur pour la victime et sa famille. Le sociologue estime que beaucoup cachent l'acte pour ne pas ternir l'image de la famille.
Vous savez, c'est la sexualité elle-même qui est associée à une sorte de pudeur. Donc la pudeur occasionne un certain silence coupable, poids du social, qui fait que bon, les gens ont peur de quand ils rencontrent. Donc ça, c'est le premier point. Mais le second point, c'est que peut-être que la législation doit être revue. Le jugement doit être tellement sévère, servir d'exemple pour d'autres personnes.
Drissa Traoré, psychologue au cabinet médical d'Igia Souba, explique que la prise en charge psychologique des victimes est une nécessité absolue. Selon lui, culpabiliser la victime pourrait empirer son traumatisme.
Le viol est un phénomène qui rend la victime dans une situation de trauma, de détresse. Très généralement, il faut forcément la mettre dans une situation bien sécurisée et il faut la garantir la confidentialité surtout. Il faut l'écouter beaucoup et on ne la force pas. Étant dans cette situation de confort, de confiance, la victime peut s'exprimer.
Madame Bassantouré est un des substituts du procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako. Elle précise que les auteurs de viols et d'actes pédophiles risquent 5 à 20 ans de prison et peuvent aller à la réclusion à perpétuité.
Du mois de juillet à octobre 2021, nous avons recensé à peu près 10 cas de viols, à peu près 4 cas de pédophilie. Oui, en général, c'est les parents qui viennent porter plainte accompagnés des victimes. Elles peuvent porter plainte soit à la police ou venir porter plainte au niveau du parquet. Comme ça, on oriente les dossiers et on en va devant les juges d'instruction. Ça se juge à la cour d'assises parce que c'est des faits criminels. Ici, nous jugeons que des faits correctionnels. Le viol est un fait criminel.
Rappelons que ce phénomène est accentué au nord et au centre du pays à cause de l'insécurité, selon des organisations humanitaires.
Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site web au www.studiotamani.org. Porter un enfant au dos est une pratique ancestrale très répandue au Mali et en Afrique. Elle procure un bienfait à l'enfant et à la mère selon des traditionalistes. Pour des spécialistes de la santé aussi, porter son bébé au dos a beaucoup d'importance pour son épanouissement et son bien-être. Cependant, d'autres femmes choisissent des méthodes beaucoup plus modernes. Le magazine Toutes les femmes du Mali s'intéresse à la question avec Fatoumata Kodjo.
Avant même d'être mère, une jeune fille a souvent déjà été initiée à porter un enfant au dos dans sa famille. Elle a probablement porté un frère ou une sœur plus jeune, un cousin ou encore une nièce. Pour avoir l'affection de l'enfant, la mère doit adopter un certain nombre de gestes, nous confie Madame Bamba Mariam Samake, une mère de famille retraitée. Elle a 8 enfants et les a tous portés sur son dos. La septuagénaire invite la nouvelle génération de mères à valoriser cette pratique ancestrale qui renforce le lien entre le bébé et sa maman.
Porter l'enfant au dos renforce les liens entre l'enfant et la mère. La chaleur qui se dégage du corps est bonne pour l'enfant. Si tu déposes l'enfant sur la poitrine, il ne peut rien sentir de toi. Les jeunes doivent savoir que nos coutumes sont très importantes pour nous. Tôt ou tard, nous reviendrons à nos traditions.
Des mamans partagent également cet avis. Pour elles, porter les bébés au dos favorise son épanouissement et son développement.
Je suis née dans cette pratique, donc je porte mon enfant au dos. Je ne suis pas une blanche, je n'achète pas des kangourous.
Moi, je porte mon enfant au dos quand j'ai la force. Cela crée un lien entre la mère et l'enfant. Certaines portent leurs enfants au dos jusqu'à 3 ou 4 années.
Si tu ne portes pas l'enfant au dos pendant un certain âge, quelques peines pourraient lui arriver. Tout le long de ma maternité, j'ai porté mon enfant au dos. On n'aime plus porter nos enfants et même les prendre. Elles ont les enfants au flanc ou les couches sur la poitrine. Ce qui est bien, c'est de les porter au dos.
Des spécialistes de santé abordent dans le même sens. Dr Nyama Sissoko, pédiatre au district sanitaire de Kalabankoro, nous explique comment bien porter son enfant au dos.
Lorsque l'enfant est au dos, il doit être à la bonne position, l'attacher de manière à ne pas pencher sa tête et la tenir avec un vêtement. Cela est le cas des enfants qui ne peuvent pas tenir leur tête eux-mêmes. Et ceux qui peuvent la tenir, la mettent eux-mêmes dans la bonne position. Positionner les jambes de l'enfant de façon à former la lettre M. Si tu l'attaches, il faut bien attacher les hauts et les bas.
La pédiatre ajoute que porter son enfant au dos permet de bien réguler sa température corporelle.
L'enfant, quand il est porté au dos, cela permet de régler la température de son corps. La température ne serait ni chaud ni froid. Celui qui porte l'enfant au dos peut faire toutes ses activités de la journée. Cela favorise l'intelligence chez l'enfant. Ça renforce les liens entre le porteur et l'enfant lui-même.
Cependant, de nos jours, certaines mamans préfèrent la méthode kangourou. Pour elles, cela protège leur bébé du vent et d'autres dangers.
La méthode kangourou, c'est de poser l'enfant sur la poitrine. C'est facile, cela lui protège aussi. Car s'il est au dos, le vent ou autre chose pourrait l'atteindre sans que tu ne le saches. Alors que s'il est devant, tu peux le voir. Moi, je porte mon enfant sur l'épaule ou je le mets dans le kangourou. C'est un peu difficile de le tenir au dos. Car si tu le portes au dos, sur la moto, sa tête peut se pencher. Alors qu'avec le kangourou, il est simplement posé sur la poitrine et l'enfant est bien protégé.
Qu'une maman adopte la méthode kangourou ou porte son enfant au dos, sachez qu'un enfant bien porté est un enfant bien portant.